bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, vous êtes bien sur le bouche-à-oreille qui reçoit aujourd'hui l'association d'Aïkido de Senlis, alors je ne sais pas si je viens de prononcer, Asetai, donc on va expliquer ce que ça veut dire bien sûr, hein. Représenté par Jean-François de Poisson. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous.
Donc Jean-François, sixième dan, ah j'ai du mal, hein. Attends, faut que je me reprenne.
Tu es fatigué
là.
Mon petit.
Oui c'est ça, ouais. Donc on va expliquer ce que c'est, hein. Jean-François, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Et il est accompagné de David Stesicki. Bonjour David.
Bonjour.
Donc David qui est secrétaire et éducateur sportif.
C'est ça.
Donc on va en rentrer aussi un peu plus dans le détail. Et pour faire cette émission, je suis accompagné de Gontran.
Il est là.
Donc Gontran, c'est un art martial à lui tout seul. Hein, voilà. Donc,
oh merci.
Il est
Fred.
Impressionnant. Voilà. Et Luc à la technique, notre marsouin. Voilà. Voilà. Donc les auditeurs, si vous voulez participer à cette émission, il y a plusieurs solutions. Il y a le Facebook de RVMFM, où vous pouvez laisser un message à l'association d'Aïkido de Senlis. Le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Donc messieurs, je vais vous donner la parole. J'ai envie de savoir qui vous êtes et présenter déjà vous-même et après l'association. On commence par qui ? Par celui qui a le plus de Dan ?
Pas de problème.
Respect aux...
Pas hein de problème. Pas de
allez,
problème.
Jean-François.
Respect aux anciens, comme on dit. Voilà, donc je suis Jean-François de Poisson. Je suis le cofondateur du club d'Aïkido de Senlis à Setai. Qui est un club qui a été mis sur pied en 1987 avec un ami que je connais toujours et qui m'a toujours été d'un grand secours dans tout ce que j'ai fait comme parcours dans l'aïkido. C'est un ami, mais plus encore. Donc, il s'appelle Eric Derobe. Et puis, dans les années 87-88, on a mis sur pied cette association. Et puis, pour des raisons professionnelles, Eric a quitté la région et est parti vivre en Bretagne. Et un beau jour, il m'a dit, voilà, je te laisse les clés et puis vas-y. Et puis, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est ouvert et qu'on pratique quasiment 4 à 6 fois par semaine.
Ah oui, c'est énorme, 4 à 6 fois, oui.
Ouais.
Ah oui, donc c'est le dojo est bien rempli alors.
Voilà, le dojo est bien rempli. J'essaye de mettre l'esprit un peu comme au Japon, c'est-à-dire que il y a un lieu d'entraînement, et les gens, dès qu'ils ont la possibilité de s'entraîner, ils viennent. Donc, on fait des cours le dimanche matin, on fait des cours en soirée, on fait des cours l'après-midi pour les plus jeunes. Et puis, on essaye de créer une dynamique pour que tout puisse avancer et puis donner aux gens l'envie d'être présents.
Voilà, donc il y a une adaptation par rapport aux horaires de chacun. Quoi. Vous faites un effort offrir un service.
C'est des grandes plages horaires. Hein. C'est au minimum entre 3 heures ou 4 heures de pratique. Et donc les gens peuvent arriver. Il y a des horaires de cours spécifiques où on essaie d'être à l'heure quand même quand ça commence. Et puis après, le rythme est donné. Et les gens viennent apprendre, pratiquer, échanger à tous les niveaux, que ça soit physique et puis aussi connaître l'histoire de l'aïkido, voilà. Qu'on va peut-être aborder ce soir.
Oui, on va. Bien sûr, on est là pour ça. Hein. On va faire la présentation de David. Alors
bonjour à tous. Bonjour à l'équipe RVM. Et je vous remercie déjà de nous donner cet espace radio pour justement pouvoir venir vous parler de l'aïkido. Moi, je suis éducateur sportif aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire une formation avec la ville de Crépy-en-Valois. Donc, j'ai travaillé avec le service des sports de Crépy-en-Valois. Donc, j'ai eu l'opportunité.
Tu connais bien notre secteur, alors.
Je connais bien votre secteur. J'ai eu l'opportunité de travailler avec tous les enfants de Crépy-en-Valois, donc du CP au CM2, avec des petits programmes sportifs. Donc, j'ai été formé par le service des sports. Hein. Et aujourd'hui, donc, moi, je suis quatrième dan d'aïkido. J'ai démarré en 1993 et en parallèle, j'ai aussi un deuxième dan de kendo, donc le sabre japonais avec les armures. Mais je ne suis pas venu pour parler du kendo, donc ça reste les arts martiaux.
C'est encore une autre facette du personnage.
C'est encore un cheminement, c'est une autre voie, mais ça reste les budo traditionnels. Donc, pour revenir sur l'aïkido, voilà, moi j'ai souhaité contacter la radio RVM, donc vous, toute l'équipe. Suite au Covid, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'exprimer à travers les dojos, l'aïkido et tout ça. Donc, c'était important pour moi de venir frapper à votre porte, puisque... je sais que vous avez quand même une belle écoute et de pouvoir dire aux gens qui nous écoutent là tout autour, bah, de dire voilà, à Senlis, on a un grand professeur, mon professeur Jean-François Depoisson, qui passe son temps. Aujourd'hui, il a la chance, il vient d'être à la retraite, donc il met tout son temps dans l'aïkido. Voilà, il met tout son temps dans l'aïkido. Donc moi, j'invite les gens à faire cette démarche, de venir le rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui et qui reste sur des valeurs, on va en parler un peu plus après, mais sur les valeurs de l'aïkido telles qu'elles sont pratiquées au Japon.
Voilà, voilà. Donc moi, j'aimerais savoir, avant de parler d'aïkido, c'est comment vous êtes venu à cet art martial, comment vous l'avez découvert ?
Alors pour ma part, moi j'étais donc j'avais 23 ans à l'époque et aujourd'hui j'en ai 52. J'avais 23 ans à l'époque et j'étais comme beaucoup de gens en recherche un peu spirituelle. On cherche à se construire, à découvrir un peu ce qui se fait autour de nous, que ce soit sur le plan pratique, mais sur le plan ressenti, émotionnel, spirituel. Enfin et bah comme tout le monde, un jour je suis venu frapper à la porte du dojo de Senlis. Quand je suis arrivé, il y avait plein d'anciens. Et j'ai frappé à la porte et Jean-François m'a accueilli et elle m'a dit « Bienvenue parmi nous ». Je lui ai posé la question « Est-ce que je suis trop vieux, trop jeune pour faire l'aïkido ?» Il me dit « On n'est jamais trop vieux ni trop jeune pour faire l'aïkido, donc prends un kimono et hop, c'était parti ». Et l'aventure a commencé comme ça, quoi.
Et donc, depuis ce temps-là, tu y es toujours fidèle au club de Senlis.
Chaque semaine. Donc, à travers ma vie, j'ai eu mes enfants, mon épouse, parce que tout ça, ça touche votre famille. Mais il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on pratique au minimum 2-3 heures d'aïkido sur la semaine. Voilà. Aujourd'hui, on essaye d'en faire... Enfin, on essaye, c'est même pas qu'on essaye, c'est qu'on a besoin d'en faire plus. Et on veut toujours plus. Ouais. Au grand regret de mon épouse qui souhaiterait peut-être m'avoir un peu plus à la maison. Il
faut la mettre à l'aïkido.
Sylvie, donc ma femme, elle a aussi sa passion. La mettre à l'aïkido, comme on va en parler tout à l'heure, c'est une démarche personnelle.
D'accord.
Donc c'est quelqu'un qui est venu, elle a regardé, elle est touchée par l'aïkido. Mais c'est une sportive aussi de très bon niveau. Elle aime la course à pied. Et elle s'évade à travers la course à pied.
Voilà, elle chemine autre part, on peut dire.
Elle chemine autre part. Et des fois, elle m'emmène avec elle, et puis je vais courir un petit peu avec elle.
Voilà. Et les enfants ?
Alors, les enfants, ma fille est en train de passer, donc elle fait ses études donc, sur Soissons, elle est en train de passer un diplôme de le STAPS. Mais en fait, le STAPS, c'est pour devenir prof des écoles à travers le sport. Sauf qu'elle, elle a trouvé une passerelle où elle veut devenir maîtresse des écoles. Et mon fils, lui, il a cheminé pareil et il a souhaité arrêter ses études, faire un gros break pour aller se confronter dans la vie de tous les jours au métier.
D'accord. Il va découvrir...
Il est en train de se construire.
Très bien.
Voilà.
Jean-François, comment c'est venu cette passion pour l'aïkido alors ?
très bizarrement. Je suis parti des gens de la génération de Bruce Lee. Alors forcément,
On s'y reconnaît là.
On était tous influencés par ça et tout simplement avec un ami, j'ai voulu faire du kung-fu. Sauf que c'était pas vraiment ma tasse de thé quoi. Mais le professeur que je côtoyais à cette époque-là m'a dit je vais t'emmener quelque part, je vais te montrer quelque chose qui, à mon avis, ça sera bien pour toi. Bon, du coup, je l'ai suivi. Et je suis allé à la montagne Sainte-Geneviève, dans l'un des plus prestigieux dojos de Paris, qui était le fief de Maître Henri Play, qui était l'un des grands précurseurs du karaté en France. Et il avait effectivement une très belle salle et tout, et j'ai été voir l'aïkido. Je ne connaissais pas, et j'ai trouvé ça très étrange. Et puis, l'envie de faire quelque chose. J'avais fini mes études, tout ça et tout. Et puis, je commençais à travailler. Je me dis, je vais essayer d'équilibrer un peu tout ça. Et j'ai donc signé ma première licence dans ce dojo. Et puis, rapidement, un feeling est passé avec les anciens du groupe et ils m'ont adopté. Et puis, j'étais rapidement admis parmi les plus anciens. Et puis, je me suis entraîné. Je m'entraînais plusieurs fois par semaine et tout. Et puis, comme ça. Et au fur et à mesure de ma progression, j'ai eu la chance de rencontrer mon professeur actuel, que je suis donc depuis plus de 30 ans, et qui m'a fait découvrir l'aïkido que je pratique maintenant, qui me guide vraiment dans ma pratique de tous les jours. Et grâce à lui, j'ai pu partir au Japon. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai plusieurs séjours au Japon. J'ai pu pratiquer avec son professeur, qui était le plus haut gradé du Japon, en dehors de la famille du fondateur. Comme on dit Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai pas pu m'arrêter. Ouais. Voilà.
Ah, puis la culture japonaise, c'est des traditions qu'ils respectent depuis des millénaires, on peut dire. Hein. Ils sont quand même très traditionnels, hein, quand même. Hein.
Oui, c'est une île donc qui a été longtemps fermée sur elle-même et qui a été un peu ouverte par les Américains qui ont forcé un peu le passage. Il y a des fondements au Japon qu'on ne retrouve qu'au Japon. Ça, c'est évident. C'est un pays très, 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 très particulier, avec des côtés extrêmement, extrêmement chouettes. Enfin, c'est un beau pays, il y a des très belles choses à voir. Mais il y a aussi des contraintes dues à un manque d'espace. Les gens sont un peu les uns sur les autres. Et donc, il y a un respect qui est obligé de se créer, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre dans ces conditions-là. Et c'est vrai que nous, Occidentaux, quand on arrive là-bas, ça fait un drôle d'effet. Mais on s'habitue. Et puis moi, j'étais au Japon, surtout dans le cadre donc de l'aïkido, et donc je vivais, pendant les périodes où j'étais à demeure, c'est-à-dire que je dormais dans le dojo, je vivais, je mangeais, je faisais tout, quoi. Donc quand on partait comme ça, c'était aïkido H24.
Oui. Et donc, ta sixième dan, tu nous disais avant l'émission qu'elle était remise par le maître qui a la
voilà,
qui
c'est
au maximum
ça.
De dan, 10 dan, c'est ça?
Enfin, ces danes-là sont émises par le Rombo Dojo, c'est-à-dire le dojo central de l'aïkido à Tokyo, qui est à l'heure actuelle, donc, c'est le petit-fils du fondateur de l'aïkido qui enseigne là-bas. Et donc, le dojo au Japon où je vais, qui est à Shingu, dans la province du Wakayama, est une antenne du Rombo Dojo de Tokyo. Et donc, Kizuchi Sensei, qui était le maître de ce dojo-là, était lui-même en relation avec ça. Donc, les grades que l'on reçoit sont validés par le dojo central du Japon.
D'accord. Et donc, vous parlez quelle langue là-bas, alors, du coup ? En anglais, en français, en japonais ?
Alors, on parle la langue du corps, c'est-à-dire que pour pratiquer l'aïkido, il n'y a pas besoin de parler. On fait tous les mêmes mouvements. Donc
il faut suivre les gestes, alors, c'est ça.
Et puis, bon, un petit peu l'anglais, et puis...
bafouille un peu quelques mots.
Quelques mots de japonais.
Je me doute, ils sont très reconnaissants de voir qu'il y a cette démarche. Mon premier voyage que j'ai fait au Japon, c'était en 2011, c'était quand même une période assez particulière, parce qu'ils venaient de recevoir justement une catastrophe là-bas. Donc, nous, on avait programmé notre voyage avec Jean-François à cette époque-là, avant que leur malheur arrive. Et en réalité, eux, ils pensaient qu'il n'y a personne qui viendrait au Japon, déjà du nombre, et ensuite au dojo. Et quand ils nous ont vus arriver, nous, on a pris la décision avec Jean-François, dit, écoute, on s'est regardé tous les deux, on dit, on y va. Et on a été suivis par tout un groupe. Et ils étaient enchantés de voir qu'on était arrivé là-bas. Donc, ils nous ont accueillis, vraiment. Et c'est vrai que pour eux, c'est important de voir que les Occidentaux fassent la démarche d'essayer de parler un petit peu le japonais, même si c'est peu de choses. Ouais.
De s'adapter un petit peu à l'environnement.
C'est ça,
voilà,
c'est ça.
Alors, il y a un truc important que tu m'as dit, David, avant qu'on commence l'émission. Tu m'as dit, l'aïkido, ce n'est pas un sport, c'est un art martial.
Exactement. Exactement. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément, parce que, comme je vous dis, je suis éducateur sportif. Donc, je suis de l'autre côté de la barrière, on va dire ça comme ça, parce que j'ai cette capacité de pouvoir, à travers ce diplôme, former des gens pour acquérir des compétences dans le sport. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc, mon professeur Jean-François Depoisson, qui lui m'a fait voir l'aspect de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par une pédagogie ou alors, ce que je veux dire, le verbal pour transmettre quelque chose. Ouais. Ça passe par la sensation. Et ça, il faut monter sur un tatami pour le savoir. Alors, je suppose que ça existe dans plein d'autres choses, mais moi, je le vis à travers les arts martiaux et l'aïkido.
On va te laisser la parole, Gontran.
Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, 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 ras-le-bol.
On les connaît dans les arts martiaux. Ils ont tous la réputation d'être zen, de n'utiliser leur art que pour faire le bien autour d'eux, et seulement en cas de défense. On sait que les arts martiaux ne sont pas seulement un passe-temps, un hobby, mais un art de vivre. Sont-ils pratiqués par des gens ayant eu d'autres vies plus tumultueuses ? Tumultueuses ? Toujours est-il qu'ils sont là, posés, dans la tranquille maîtrise de leur corps et de leurs esprits. Pas un bruit autour d'eux, mis à part cette mouche qui vole et qui ne va pas tarder à se dédoubler après le mouvement de sabre d'un adepte des arts martiaux. Ses yeux sont fermés, sa position est celle du lotus. Il se concentre sur les passages incessants de la bestiole, puis soudain, tac, plus rien. Retour au calme. Parce qu'en fait, chers auditeurs, auditrices de RVM 93.7, une guerre très ancienne subsiste encore de nos jours entre les adeptes des arts martiaux et les mouches. C'est un secret bien gardé que je m'apprête donc à vous révéler. Un secret qui remonte à bien avant la création des arts martiaux. Il y a très longtemps en Asie... Bon, là, je fais le con. Je reprends. Il y a très longtemps en Asie, le pays fut envahi par les mouches. Oui, des mouches de diverses races. Tsetse, mouche bleue, mousse charbonneuse, thon, mousse d'automne... Oh, je dis mousse. Mouche d'automne, mouche des sables, pollinie des lombriques, mouche du vinaigre, mouche à drain, chysope verte, mouche à damier, tropicale ou encore, et oui, encore, il faut bien le dire, mouche à merde. Bref, pour vous la faire courte, la population était emmerdée. Et rien n'y faisait. L'homo erectus de l'époque ne pouvait pas se déplacer sans sa cohorte de mouches. C'est alors que dans un éclair de génie, il commença à créer toutes sortes de danses et de mouvements pour s'en débarrasser. Que l'on appelle encore aujourd'hui, je vous le donne en mille, les arts martiaux. Eh oui, les arts martiaux qui ont pour dénominateur commun les mouches. Oui, mesdames et messieurs, les mouches. Bien sûr, ils affinèrent leurs différentes techniques au cours des siècles, dans le plus grand secret de leur confrérie, jusqu'à créer chacun leur style. Prenez le kung-fu, par exemple. Bon, le kung-fu, si vous observez bien leurs mouvements, franchement, n'essaie-t-il pas de se choper des mouches au kung-fu, hein ? Et le karaté, hein ? Violent, le karaté, pieds, poings, et des mouches partout assommées. Bah oui, si vous regardez bien deux karatékas en combat, c'est souvent une mouche qui arbitre, hein ? Avec son petit sifflet, zzzz, faute. De toutes les manières, vous pouvez les prendre un par un, les arts martiaux, vous trouverez toujours la mouche du coche, tout au moins quelqu'un qui s'agite autour. Tenez-vous-le pour dit, si le requin est accompagné de son macro, le pratiquant des arts martiaux, lui, est accompagné de sa mouche. Tiens, bah le judo, un autre exemple. Alors au judo, technique, j'écrase la mouche sur le tatami avec l'adversaire, allez, là ! Ensuite, il se salue, et ben foutaise, il salue la mémoire de la mouche, et oui. Mesdames et messieurs. Eh oui, de même, lorsqu'il s'attrape par le kimono, c'est pour choper la mouche qui, attirée par le blanc, vient l'énerguer. Un coup à gauche, un coup à droite, épaule, avant-bras, ceinture et hop ! Achibaraï. Une mouche écrasée au sol. Moi, je vous le dis, dans les arts martiaux, suivez les mouches. Mes chers auditeurs, la pire de ces confréries, la plus vicieuse, c'est bien l'aïkido. Oh, l'heureux, attention ! Tout est dans la beauté du geste. Ils apprennent à rouler boulet à la Belmondo sur le sol, avec leur grand pantalon jupe-culotte appelé Akama, 5 plis devant, 2 plis derrière, dans lesquels ils emprisonnent les mouches lors de leurs nombreuses roulades. Et ça va vite, faut les voir pour le croire. Les plus entraînés vont jusqu'à attraper 10 mouches en une roulade. Alors parfois, des concours s'organisent, on rigole, tous les coups sont permis, et hop, une mouche sous les aisselles, une autre dans l'arrêt des fesses, etc. Bon. Mais quand soudain, à l'aïkido, il pousse un cri, pour comme il tente de nous le faire croire, se concentrer. C'est en fait pour expulser une mouche mutine qui a réussi à entrer dans le rakama. Il crie alors « Ikumusumi !» en respirant profondément. L'air entre alors en eux et l'adversaire ailé est alors expulsé par un gaz martial, tout simplement dirais-je. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Alors évidemment, on aurait pu causer technique, hein, celle du kendo, du taekwondo, du tai-chi, du jujitsu, etc. Mais bon, à quoi bon, hein ? Leur but à tous, je vous le dis encore une fois, c'est les mouches. Alors cependant, j'aurais une petite question pour nos amis de l'association Aïkido de Senlis. Alors écoutez bien, hein, la question n'est pas facile.
Oh non.
Merci.
Il faut répondre, hein. Donc, si vous avez une réponse à donner,
ah,
bah,
à je ne sais pas s'il a répondu. Hein.
Ah, bah, voilà, c'est moi qui applaudis.
Je dirais même plus.
Bravo. Eh bien, ils ont tout compris, les gars.
Des dents.
Et ça reste entre nous, les gars, c'est bien.
Ah oui,
question-réponse, c'est
impeccable.
Et tu verras qu'on ne prend pas la mouche.
Ah, je l'ai vu. Bien. Celle-là. Bravo. Donc, David.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire l'historique de l'aïkido ? Parce que je vois que tu as bossé, tu as ramené pas mal de notes, tu as travaillé ton émission de ce soir. Tu peux nous faire l'historique ? Qui a inventé l'aïkido ?
Alors,
on a compris que ça vient du Japon.
Je vais amorcer le cheminement de... chez nous, en fait, dans notre groupe, on a trois grands personnages qui sont très importants en termes d'aïkido. Donc, il y a le fondateur, Morihei Ueshiba, qui est né en 1883 et qui nous a quittés en 1969. Alors, petite anecdote, je suis né en 1969.
Ah, voyez. Peut-être qu'il revit dans toi, alors.
Allez, devons savoir. Et il a eu, donc, dans son parcours, plusieurs élèves, parce que l'aïkido a démarré, donc... En
1942, le nom Aïkido a été officiellement adopté par les autorités japonaises en 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les arts martiaux ont été interdits au Japon par le headquarter américain. Ils avaient tellement peur que, parce que le Japon a été occupé par les troupes américaines, ils avaient tellement peur que leurs soldats soient attaqués dans les rues, qu'ils avaient interdit toute pratique. Et puis, petit à petit, les choses se sont stabilisées. Ils se sont aperçus en réalité qu'il n'y avait pas d'envie de vengeance, pas véritablement de gros problèmes. Donc ça a commencé à se libérer. Et un des arts martiaux qui a été libéré en premier, parce que derrière, il y avait une philosophie aussi de non-violence, quelque part, l'aïkido a pu reprendre vie. Et dès les années 50, il y a eu les toutes premières démonstrations faites par le fondateur de l'aïkido.
Il est venu en France ?
Non. Son fils est venu en France, qui était invité donc par les pratiquants d'aïkido de l'époque. Il est venu en France. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que la première démonstration qui était faite en France, c'était à l'Olympia.
Ah ouais. Après Johnny Hallyday.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, il y a eu son petit-fils et son arrière-petit-fils qui est venu. Et là, et nous, on y était en 2019. Je veux pas vieillir, moi. Et qu'on avait rencontré là-bas au Japon et donc qui nous avait invités. Ah, j'espère vous voir là-bas. Au stage, et donc nous sommes allés à son stage international qu'il a fait à Paris. Voilà, donc la famille Ueshiba est toujours très, 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 très active dans le monde de l'aïkido.
Et donc, au niveau de l'aïkido, donc, je parlais de trois personnages qui sont importants pour nous dans notre étude. Donc, le fondateur de l'aïkido, qui avait, avant l'émission, on parlait un peu de l'aïkido, et je vous disais qu'en fait, Morihei Ueshiba, lui, n'enseignait pas l'aïkido, il faisait l'aïkido. Et c'était à ses élèves de lui voler ses techniques.
D'accord,
en fait. Parce qu'en fait, il disait qu'il nommait pas les techniques, il n'y avait pas de nom de technique. Le nom des techniques sont arrivés bien après. Donc, il avait une façon bien à lui de transmettre l'aïkido. Et sur son parcours d'aïkido, il a eu donc beaucoup d'élèves, et dont un qui, pour nous, dans notre groupe, était très important, qu'on a eu la chance de rencontrer tous les deux, Jean-François un peu plus, et qui s'appelait Ikitsushi Michio Sensei, donc, et qui est le seul à avoir reçu de la main du fondateur de l'aïkido, je ne sais pas si je dis des bêtises, Jean-François, mais le 10e dan d'aïkido. Donc le 10e. Donc c'est un des seuls aujourd'hui qui a... Et donc ce personnage pour nous est très important puisque le fondateur de l'aïkido lui a demandé donc de construire un dojo là-bas dans le Japon, à Shingu exactement, du côté de Wakayama, dans le Kumano exactement. Donc pour nous, le Kumano, ça parle pas beaucoup aux auditeurs, mais ça ressemblerait un peu à un lieu de pèlerinage très empreint de religion Shinto. Et l'aïkido, que nous on pratique, est né vraiment là-bas, parce que le fondateur de l'aïkido avait une grande relation avec cette région aussi.
Il était né là-bas.
Il est né là-bas. Donc,
il est né à Tanabe.
Il est né à Tanabe, voilà.
Donc à quelques kilomètres. Quelques kilomètres de Shingu, et donc Kizuchi Sensei a été quelqu'un qui a eu une relation très jeune. Il a rencontré le fondateur, il avait 13 ans, donc et ils étaient, Kizuchi Sensei était orphelin de père et mère, et quelque part il était élevé par sa grand-mère, qui était une amie proche du fondateur de l'aïkido, donc il y a une relation un peu... pas familial, parce qu'on peut pas dire ça, mais quelque chose quand même d'assez fort entre eux, et ils se sont suivis toute la vie du fondateur jusqu'en 69, et c'est aussi pour ça qu'il a reçu un si haut grade, et qui a été il était le gardien de la tradition de l'enseignement du fondateur de l'aïkido. Et quand on l'a rencontré, il nous disait « je vais vous apprendre l'aïkido tel que le fondateur le pratiquait ». Donc c'était son credo.
Oui, moi je voulais poser une petite question depuis tout à l'heure, ça me taraude. C'est une dan à l'aïkido, bon j'ai bien compris que c'était un grade, hein, mais pour les auditeurs et pour moi, ça dépasse pas un peu ça, cette idée du... J'ai l'impression que... Comment vous expliquez,
il y a toute une progression. Enfin, en réalité, le mot dan, c'est, ça veut dire degré.
Oui.
Donc, dans la pratique des arts martiaux traditionnels, il y a des étapes qui sont franchies. Et chaque étape est balisée par un diplôme. On remet une dan au bout d'un... À partir du moment où on a acquis une certaine autonomie, un certain niveau de pratique, on reçoit un... Soit on passe un petit examen, soit on s'est donné directement par le maître présent, et on considère que ça balise ce moment-là. Vous êtes arrivé à un niveau de...
Physique et spirituel ?
Oui, enfin, les quatre premiers dan, c'est d'abord physique. C'est d'ailleurs, on apprend les techniques, on apprend à les réaliser, on apprend à les mettre en situations diverses. Et puis, au-dessus du cinquième, on commence à avoir le travail que vous avez fait par rapport à l'aïkido.
D'accord.
Et plus on monte dans ces hauts grades, c'est quel est votre investissement dans la pratique de l'aïkido. Par exemple, je pense que si je n'avais pas créé le club de Senlis, si je ne m'étais pas investi comme je me suis investi dans la pratique de l'aïkido, je n'aurais jamais eu mon sixième dan, parce que ça démontre que j'ai dépassé un certain niveau d'investissement dans la pratique.
Ça fait partie de l'aïkido.
Ouais.
C'est un peu votre aïkido, finalement.
Oui, c'est ça. C'est une reconnaissance par mes anciens, mais les gens qui sont devant, hein, qu'on appelle les senpai, disent, cet homme ou cette femme, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des femmes de haut niveau, mérite donc notre reconnaissance, et on lui délivre tel grade. Et avec ça, il doit... Alors, contrairement à un peu l'esprit occidental où on dit « Ah ben c'est bon, j'ai eu mon diplôme. »
Oui, mais voilà. C'est un peu...
Eh ben non, c'est le contraire. On vous donne un grade et on attend encore plus de vous.
D'ailleurs, Jean-François, quand j'ai eu mon premier dan, moi, en aïkido, la première phrase que tu m'as dit, et donc ton professeur Gérard, me dit, voilà, maintenant tu fais de l'aïkido. Allez, on y va. Oui. Donc, c'était le premier dan, c'est vrai, là où on pourrait croire, dire, c'est bon, j'y suis arrivé, j'ai eu mon premier dan. En fait, non, c'était tout simplement le début du...
C'est le début d'un cycle.
C'était le début. Tout ce qu'il y avait avant, c'était vraiment mise à l'épreuve, savoir si j'étais prêt, mon corps, si vraiment, parler de spiritualité, donc l'esprit, est-ce que je suis prêt à cheminer? Et donc la porte s'ouvre devant vous du dojo, et là vraiment les années s'écoulent derrière, parce qu'on passe du premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à Jean-François Carabé sixième. Mais c'est plus des questions qu'on se pose, est-ce que je vais recevoir ou pas un grade. C'est pas le plus important. En fait, ce qu'on va vivre sur les tatamis tous ensemble, et comment. Des fois, Jean-François aime bien dire, il dit à ses élèves en fin de cours, vous vous imaginez pas comment vous avez progressé. Il dit, moi je le vois, mais nous en tant que pratiquants. On se voit pas progresser. Des fois, lui, il est là pour ça, nous faire remettre en question ce qu'on pense savoir. Mais en réalité, il y a eu quand même une progression.
Ouais. Et entre les dames, Jean-François, tu nous disais, tu as attendu 12 ans entre la 5e et 6e, c'est ça?
Entre la 5e, oui, à peu près, oui, ça doit être grosso modo ça.
Ouais, donc il faut être patient aussi. Hein, donc il...
Oui, mais c'est...
C'est vraiment un parcours aussi dans la tête.
Mais, hein, mais à partir du moment, Frédéric, on dit patient, mais à partir du moment où tu te positionnes en tant que patient, c'est que tu attends quelque chose.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mmh.
Donc là, tu n'attends pas quelque chose.
Ça fait partie du lâcher prise en aïkido. Okay. Tu commences... à faire ce travail de lâcher prise. Donc, tu n'attends plus, justement, cette fameuse récompense, puisque tu sais que la récompense, elle est au quotidien, dans le dojo, dans le travail que tu fais.
Très bien. Allez, on met un petit morceau de musique. Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association d'Aïkido de Senlis, Assetaï. Alors, les auditeurs, vous pouvez téléphoner au 03 44 59 30 30 ou sur le Facebook de RVM FM ou sur le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com si vous avez des questions pour découvrir cet art martial. Alors, nous avons écouté quoi, messieurs ? C'est une musique traditionnelle du pays du soleil levant ?
Oui, on a choisi de mettre un peu de musique traditionnelle pour rester dans l'ambiance de cette émission. Alors après, le titre exact, moi, je ne le connais pas par cœur. Je l'ai donné au technicien. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils reviendront vers lui
pour découvrir, pour
transmettre. Ouais. Voilà, mais c'est,
le technicien, il devrait nous le dire en japonais.
Il ne parle pas le technicien.
On ne va pas l'embêter.
Ouais. Voilà. Et donc, je voulais quand même savoir, on peut traduire comment Assetaï alors ?
Alors, l'Assetaï, ça a été, donc, comme on l'a expliqué, mis à une certaine époque, ça a été mis en place par Jean-François et Éric Derobe. Et je lui ai posé cette question, pourquoi l'Assetaï ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, c'est tout simplement trois blocs de mots. As, donc, et aï, donc c'est l'association pour l'étude et l'enseignement de l'aïkido et ses disciplines affinitaires.
Très bien. Comme ça, au moins, on a compris certaines choses. Ouais. Alors, David, je vais te laisser la parole parce que tu as préparé des questions pour ton ami Jean-François.
Et comme je vous disais tout à l'heure, donc, l'aïkido, ce n'est pas quelque chose qui se pratique seulement sur un tatami. Donc, en rigolant comme ça, Frédéric...
Ça se pratique à la radio aussi, c'est ça ?
On peut pratiquer l'aïkido à la radio. Donc là, je vais le mettre un petit peu à l'épreuve et on va essayer de faire sortir quelque chose de bien ensemble.
Je te propose, c'est qu'on recule un petit peu, on ne sait jamais.
Voilà. Donc, moi, tout va bien. Je sens qu'on est bien entouré, je me sens bien.
Voilà.
Je ne recule pas.
Quand on fait une technique d'aïkido, on se retrouve ensemble. Donc, ce n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Donc, on a oublié de le dire, dans l'aïkido, il n'y a pas de compétition. Hein. Donc, en fait, c'est un échange où les deux personnes progressent ensemble et apprennent à découvrir ensemble. Donc là, on va le faire. Par exemple, je me retrouve face à Jean-François. Et normalement, il est mon professeur. Et donc, c'est lui qui me fait la technique d'aïkido pour que je puisse découvrir. Là, ce soir, je vais aborder avec lui deux, trois questions. Comme si c'était des techniques d'aïkido. Donc, à travers ces questions, lui, il va avoir une posture et une réaction de réponse. Donc, moi, je voudrais lui poser la question. Jean-François, aujourd'hui, donc, comment tu pourrais définir l'aïkido du fondateur dans le monde actuel ?
Alors, l'aïkido du fondateur dans le monde actuel, je pense qu'il y a sa place. Et je dirais même de plus en plus, parce que le monde dans lequel on vit est assez compliqué. Et l'esprit du fondateur de l'aïkido était de pouvoir rendre les choses assez simples et d'aborder des sujets complexes d'une manière juste et de permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, même parmi les moments les plus difficiles. Et je pense que dans notre monde actuel, la pratique de l'aïkido a vraiment une place importante. Et si on pratique avec justesse, si on pratique avec le cœur, et en mettant toute son âme, toute sa détermination, eh bien, on devient quelqu'un de bien. Et parce qu'on devient quelqu'un de bien, eh bien, les gens qui sont proches de nous sont touchés par ça. Et donc, on peut les amener à changer, tout simplement. Et s'il y a plein de gens autour de nous qui sont touchés, on peut peut-être toucher un niveau encore plus élevé. Et peut-être changer quelques directions qui sont quelquefois un petit peu difficiles à supporter. Et un exemple tout simple, hein, on a été bloqué là par le Covid pendant quelques mois. Et puis, comme tout le monde, ça m'a fait du mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire si on ne peut plus pratiquer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, grâce à l'enseignement que mes élèves ont reçu, eh bien, ils m'ont dit, ben non, on ne va pas s'arrêter. on va faire des vidéos, on va faire des zooms. Tu vas nous montrer comment on tient un sabre de bois, un bokken. Tu vas nous dire comment on peut s'entraîner seul. Et petit à petit, on a recréé une dynamique. Et ça m'a redonné espoir. Et je me suis dit, voilà, je suis prof. Enfin, c'est un titre qui est pas vraiment, pour moi, beaucoup d'importance. Je pratique avec mes élèves, je suis pas leur professeur véritablement. Ce qui m'importe, c'est de vivre des expériences avec eux. Et donc, ils m'ont donné de l'énergie, une énergie folle. Et j'ai eu envie effectivement, et je me suis mis à bosser comme un fou pendant toute cette période-là, pour justement trouver des solutions et leur apporter à leur attente quelque chose. Et ça a bien fonctionné. On a fait des newsletters, je leur mettais des petites questions. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là? Pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Et puis la semaine suivante, je les questionnais. Alors, vous avez réfléchi? Et on échangeait pendant 2-3 heures comme ça, tous les samedis après-midi. Et puis ça a fonctionné. Et quand, de nouveau, les portes se sont ouvertes, des salles, d'abord avec des restrictions, même à l'extérieur, on a commencé à l'extérieur. On a été s'entraîner dehors, aux abords de la forêt. Et puis, quand les portes se sont rouvertes des salles avec des restrictions, on y est allé, on a fait attention, on a respecté les protocoles. Et petit à petit, on a recréé. Et grâce à ça, on est reparti sur de bonnes bases. À l'heure actuelle, ça fonctionne bien. Et je suis content. Voilà pour moi la force de la pratique de l'aïkido du fondateur, c'est ça. C'est d'aborder tous les aspects de la vie d'une manière constructive.
Merci Jean-François. Pour que les auditeurs ils comprennent bien, c'est vrai que c'est toujours une histoire de posture quand on parle de professeur, mais nous, on aime bien parler de senpai. En réalité, il est celui qui transmet la technique. C'est pour ça que nous, on a repris le mot occidental professeur, mais en réalité, il est mon senpai. Même s'il est celui qui m'instruit, mais le senpai, c'est en japonais, c'est celui qui est devant. Donc le fait qu'il soit devant, qu'est-ce qu'il a de plus que moi aujourd'hui, Jean-François, mis à part de Dan? En fait, c'est toutes ces années d'expérience. Ce sont des expériences que lui, il a vécues sur le tatami avec son professeur et qu'il a cette capacité de me faire avancer. Et moi et tous mes collègues qui sont au dojo et voilà. Mais c'était important pour moi de le dire aussi au niveau des auditeurs, parce que c'est vrai, souvent on donne un titre professeur, mais comme il dit, ça veut tout et rien dire en même temps. Mais c'est bien de dire ceux qui sont devant nous guident en réalité. Ça, c'est important. J'avais encore une petite question qui reste un peu dans le même cadre. C'était en tant que professeur, parce que tu nous as dit que tu avais combien d'années de pratique d'aïkido et combien d'années d'enseignement?
Donc ça fait 38 ans que je pratique et ça fait 31 ans. Cette année, ça fait 31 ans
voilà. que je fais. 31 ans, c'est quand même quelque chose de conséquent pour un homme, hein, dans quelle que soit sa pratique. Et là, pour parler de l'aïkido, je voulais, pour toi, Jean-François, parce que je sais que dans ton parcours, moi je t'ai connu donc en 93, tu transmettais les choses d'une manière et aujourd'hui tu les transmets d'une autre manière. Et j'espère, grâce à cette émission et puis même par tout ce qui va arriver, rencontrer d'autres gens sur les tatamis. Mais pour toi, qu'est-ce qui te semble essentiel à transmettre aujourd'hui aux futures générations qui viendront pratiquer l'aïkido?
Waouh, c'est une vaste question ça. La première chose, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est-à-dire... Je vais parler un peu de mon exemple. L'aïkido, ce qui m'a séduit, c'est la relation avec les gens. C'est de rencontrer mon professeur, qui est donc Maître Gérard Blaise, qui est le premier occidental à avoir reçu le grade de septième dan au Japon. Septième dan de la Kikai de Tokyo, ça a été le premier. Et donc, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est son exemple qui me donne envie de me surpasser, d'essayer d'approcher sa pratique et d'aborder tous les thèmes qu'il peut transmettre. Donc voilà, la première chose, c'est ça, c'est donner envie. D'ailleurs, le rôle de celui qui enseigne, entre guillemets, c'est de donner envie aux gens qui viennent de dire « Ah ouais, ça c'est super intéressant, j'ai envie de faire ça. Comment ils font? Ah, quel geste incroyable! Ah, les chutes, c'est beau! Leur costume, leur hakama pour choper les mouches en vol, c'est génial !» Eh bien voilà, c'est un peu ça, quoi. J'ai envie de transmettre ça. Et puis, après, avec un peu de sérieux, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que va recevoir le pratiquant au bout d'un certain temps? C'est-à-dire que, de temps en temps, j'ai des élèves qui m'envoient des petits SMS ou des petits messages audio qui me disent « Ah, merci pour ce cours de tel jour et tout. C'était vraiment très intéressant. J'ai senti quelque chose de vraiment très fort et tout. Merci de m'enseigner. » Voilà. Et petit à petit, on reçoit, on construit le passage de l'entre guillemets du savoir vers quelqu'un qui reçoit. Et moi, le plus grand plaisir, c'est quand je suis sur un tatami, c'est de voir mes élèves. Je leur dis pas trop parce qu'après, ils taperaient la grosse tête, mais c'est de les voir progresser. Je me dis waouh, ça c'est vraiment très très bien. J'ai envie. Et je leur explique souvent ça. Moi, mon critère est très très simple. Je suis je travaille avec mon professeur depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, j'ai l'occasion, toutes les semaines, je vais m'entraîner avec lui à Paris. Et je subis ses techniques. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure avant l'émission, c'est un monsieur qui a quand même 75 ans, qui est encore capable de faire le grand écart facial avec toucher le sol avec sa poitrine, chose que moi, j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y
Je crois qu'on
pas.
Est plusieurs dans le studio.
Voilà, voilà. Je crois qu'il y a pas mal de gens. Et qui a un physique, qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Et donc, je subis ces mouvements. Il me les fait sentir. Il me guide. De temps en temps, je lui fais des techniques. Et il me donne des sensations. Et ces sensations-là, moi, après, je m'en sers parce que je fais la même chose que dans le dojo où je pratique avec mes élèves. Je fais la même chose. C'est-à-dire que de temps en temps, je fais celui qui subit. Je ne suis pas toujours sur mon piédestal, faites comme ça, faites comme ça. Je viens et je leur dis, allez-y, faites-moi la technique. Et moi, ma manière de faire, c'est lorsque leur technique commence à me faire sentir quelque chose qui se rapproche de ce qu'a fait mon professeur ou aussi les techniques que j'ai subies on est proche de ça, je me dis waouh, là voilà, pour moi ce n'est que du plaisir, je me dis il y a quelque chose derrière qui est en train de se développer et quand c'est là et je vais appuyer le plus possible sur l'endroit où ça va aller pour les faire progresser, pour leur donner l'envie, eux aussi, d'aller. Et je pense que oui, la meilleure réponse, c'est donner envie aux autres de faire.
D'accord, merci. Merci. Je voudrais aussi aborder quelque chose pour bon, c'est anecdotique comme ça, mais j'ai vécu une expérience. Donc, tu parlais d'Éric d'Europe tout à l'heure, je me souviens, à la fin d'un stage, on avait discuté ensemble. Donc, Éric d'Europe aussi, c'est quelqu'un de très haut niveau. Donc, il vous disait, Jean-François, qui a fondé la CETAI avec lui, et avec une personne avec qui on garde la relation, que je vois au stage internationaux tous les ans, on a l'occasion de discuter. Et en fin de stage, à un moment donné, on était en train de parler de choses assez personnelles et un peu philosophiques. Et vu que c'est quelqu'un qui aussi est devant moi, et il a vécu des choses assez intéressantes, et à un moment donné, je lui posais la question... voilà, au niveau de l'aïkido, des fois, c'est comme toute chose. Des fois, on est en doute. Hein, et lui, il avait compris que j'étais un peu dans le doute. Et il m'a dit, tu sais, David, il me dit, en réalité, tout est devant toi, mais tu ne le vois pas. C'est assez impressionnant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, je commence à voir des choses qui apparaissent. Et là, je me dis, il m'a transmis quelque chose et je commence à voir les choses. Et par rapport à ça, Jean-François, je voulais te poser une question qui est un peu dans ce sens. Selon toi, on entend souvent cette phrase « quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Ça fait un peu cliché comme ça à la radio de dire ça, mais en réalité, pour revenir sur les expériences que j'ai vécues, je me dis ça effectivement. Aujourd'hui, on a du mal à se projeter dans le maître, l'élève et tout ça, ça fait un peu film japonais. Mais il faut savoir que dans notre quotidien, bah, en réalité, on vit des expériences comme ça, quoi, encore aujourd'hui. Et donc, je te pose cette question en tant que mon professeur. Pour toi, comment ça te parle, cette phrase « quand l'élève est prêt, le maître apparaît ».
Ah, c'est une phrase qu'on entend, j'ai toujours entendu, moi, dans tous les dojos que j'ai fait de France et de Navarre, j'ai entendu les anciens dire « quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Ça peut être vu de différentes manières. Bon, la plus simple, je pense qu'effectivement, lorsque l'élève arrive à une certaine maturité de travail, il trouve son maître, tout bêtement. Et puis, il décide de le suivre. Mais il y a aussi là une autre manière de voir. Est-ce que le maître et l'élève ne sont pas les mêmes personnages? Et est-ce que le maître fait suite tout simplement à l'évolution de l'élève qui lui-même a progressé sur le chemin? On peut l'imaginer comme
ça. Donc tu entends par là que l'élève, dans son cheminement, devient son propre maître?
Son propre maître et aussi le maître d'autres élèves.
Ou d'autres élèves, bien sûr.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Et puis on pourrait avoir une troisième position qui serait aussi celle qui est plus proche de la tradition, c'est-à-dire que au Japon, les élèves qui voulaient rencontrer des grands maîtres n'étaient pas forcément toujours acceptés. Enfin, c'était pas libre service comme c'est maintenant. Il fallait prouver qu'on méritait de recevoir un enseignement. Et donc l'élève devait montrer quelque chose qui attire le maître et qui dise cet élève-là a un potentiel, je vais peut-être pouvoir l'accepter en tant qu'élève. Voir ça aussi comme ça.
D'accord, merci beaucoup.
Ben, merci David, le nouveau chroniqueur de notre émission.
C'est super. Ouais,
je crois qu'on va l'embaucher.
Non, mais c'était un moment de
c'était
même
bien,
pour les
ouais.
auditeurs, je suis sûr. De...
Ouais.
Vous avez un rapport avec le temps qui est assez, je ne sais pas si le mot est bien choisi, sympathique. Assez. On vit dans un monde où moi je trouve qu'on on a un rapport au temps qui est assez qui nous dépasse.
Anxiogène.
Donc, là, du coup,
t'as bien fait de le dire, le mot temps, Gontran, parce qu'on arrive en fin d'émission.
Bah, oui. Bah, voilà. Oui, mais cette séance d'aïkido là qu'on vient de vivre, ça m'a. Il y avait plus de temps qui courait, quoi.
C'est vrai.
Mais si je peux me permettre, Gontran, effectivement, si un jour donc tu es invité, je te l'ai dit tout à l'heure, à enfiler un kimono et venir essayer un jour avec nous, si tu trouves le temps. Et effectivement, des fois, je vis des expériences avec Jean-François. À travers les techniques d'aïkido, de la manière, dans l'état d'esprit où je vais être, alors on peut apparenter ça à un état de conscience modifié, mais le temps et l'espace disparaissent. Et ça, les auditeurs, c'est vrai que c'est difficile à comprendre là à la radio, mais je les invite à venir au dojo de Senlis pour venir s'exercer et voir un peu ce qui se passe dans ce dojo.
Voilà, malheureusement, ici, le temps s'écoule, hein, on ne peut pas l'éviter, ça. Donc, David, là, tu as lancé une perche. Tu peux nous dire comment on fait pour adhérer, comment ça se passe, les cours, qu'on rentre un petit peu dans la logistique de l'association?
Oui, bien sûr. Alors, c'est simple. Vous allez donc sur Internet, comme tout le monde. Soit vous venez directement au dojo des Trois Arches, donc à Senlis. C'est derrière le McDonald's. Donc là, vous rencontrerez donc mon professeur, Jean-François. S'il y a quelqu'un qui est toujours là, je vous ai dit, il était à la retraite. Donc des fois, je me bagarre pour être le premier. Ben non, il est déjà là en kekogi. Donc le kekogi, le kimono.
Ah, il n'est pas au McDo, d'accord. Il est
non,
bien
non,
dans
non.
la salle. Dans
il est derrière. Jours, il est derrière sur le tatami. Il est déjà en train. Et vous le voyez, vous ne savez pas. Il avance, il recule. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il est déjà en train de s'entraîner. traîné, donc il nous attend. Donc vous pouvez aller au dojo directement, vous serez toujours bien accueilli par Jean-François ou ses élèves qui seront présents. Et ensuite, vous allez sur le web, hein, vous tapez dans la barre de recherche Google, donc Asetai ou Aikido sans lice. Là, vous tombez directement sur notre site moteur de recherche.
Infos, okay.
Là, vous avez toutes les informations.
Ok. Et on précise quand même une chose, puisque l'émission va se terminer en peu de temps, que Jean-François, il a quand même formé des professeurs qui sont dans d'autres villes maintenant. C'est
Oui.
Donc c'est une fierté, ça, quand même, aussi.
Ah oui, ben moi, je suis très fier quand je les ai au téléphone et qu'ils me disent « Ah, qu'on se retrouve lors des stages internationaux, tout, c'est toujours des grandes rencontres, on se retrouve, on est devenus amis maintenant. » On échange sur plein de choses.
Et ça part de Senlis. Et vous avez aussi des cours à Pont-Sainte-Maxence, à Chantilly.
Pont-Sainte-Maxence, vous allez au dojo de Pont-Sainte-Maxence, vous serez reçu un élève de Jean-François qui s'appelle Germano Minuti, qui a aussi reçu son quatrième Dan.
Voilà.
Et le vendredi, donc Jean-François vient s'entraîner, mais quand il n'est pas là, c'est Fred Ogi qui vient s'entraîner le vendredi soir et qui s'occupe, on va dire, entre guillemets, des gens qui ont besoin de formation de base et qui lui aussi a reçu son quatrième Dan d'Aïkido. Et voilà, sinon vous allez sur Chantilly, donc là c'est Laurent Hesch qui lui est deuxième et qui est il avance sur le chemin pour aller vers son troisième. Et voilà, ce sont des gens qui constamment s'entraînent. Et voilà, qui accueillent les gens chaque année, des nouvelles personnes. Là, on a fait le forum des associations à Senlis. On vient de reconstituer un groupe de petits jeunes qui ont envie de pratiquer. Donc, on transmet aussi à la génération qui arrive. Donc, voilà.
Très bien. Bah, bravo à vous, messieurs. Merci de nous avoir fait découvrir l'aïkido.
Merci à vous.
On a appris plein de choses ce soir.
On a passé un bon moment avec les auditeurs ce soir.
Hein. J'espère que les auditeurs ont apprécié, oui. Je pense. Mesdames et messieurs, donc cette émission sera rediffusée donc le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h et après en podcast. Donc merci à Jean-François de Poisson, donc quatrième Dan à Kikai.
Sixième.
Oh là là, je suis enlevé de Dan. Non mais je confonds avec David.
Dégradé.
Voilà, c'est pas bien hein, de ma part. Donc je répète, sixième Dan. Voilà. Et de David Stesicki, donc quatrième Dan, éducateur sportif.
Ouais.
Bravo, messieurs.
Ouais. C'est important le sixième Dan parce que bon, lui, il reste humble, tout ça, mais sur le plan régional, c'est un des plus hauts gradés de la région, quoi.
Très bien.
Donc c'est important de le dire.
Bonne écoute sur RVM 93.7.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.